Alors, le premier orateur de la matinée est Patrick Labarthe de l'Université de Zurich, que nous connaissons depuis longtemps, et notamment depuis son livre très important, Baudelaire et la tradition de l'allégorie, qui avait été publié en 1999. Il y a eu d'autres publications depuis lors, beaucoup d'articles, une petite présentation du spleen de Paris chez Gallimard en foliothèque et plusieurs ouvrages collectifs qu'il a dirigés, notamment tout récemment un colloque sur Baudelaire et Nerval, poétique comparée, acte d'un colloque de l'Université de Zurich d'il y a quelques années qui était publié en 2011. Il sera donc le premier à parler. Je voudrais rappeler à tous les orateurs qu'ils ont trois quarts d'heure, discussion comprise. Et nous allons, comme il y a d'assez nombreuses communications dans la journée, nous allons tenter de suivre de manière assez précise cet horaire. Donc, je dis aux orateurs, si vous voulez qu'il y ait une discussion, n'occupez pas les 45 minutes et vous laissez entre 5, 10, 15 minutes pour une discussion à la fin de votre présentation. Le titre de Patrick Labarthe ce matin est « Baudelaire et le génie de l'allégorie ».
Baudelaire s'interroge sur la double expérience qu'autorise la drogue, d'une projection du sujet dans l'espace et d'une intériorisation du monde extérieur. C'est à l'allégorie qu'on le voit rapporter le mouvement qui fait sortir de la prison du moi pour une révélation de ce qu'il appelle la profondeur de la vie. Nous noterons en passant que l'allégorie, ce genre si spirituel, écrit-il, que les peintres maladroits nous ont accoutumés à mépriser, mais qui est vraiment l'une des formes primitives et les plus naturelles de la poésie, reprend sa domination légitime dans l'intelligence illuminée par l'ivresse. Pareil éloge, déjà présent dans le salon de 1845, un des plus beaux genres de l'art, lisait-on, repris dans l'art philosophique qui vante le génie de l'allégorie, ne va pas sans poser d'abord une question d'ordre lexical. Loin de distinguer l'allégorie du symbole selon le clivage posé par Goethe et Coleridge, Baudelaire écrit indifféremment de cet échange entre le monde extérieur à l'artiste et l'artiste lui-même. Le premier objet devient symbole parlant. L'intelligence de l'allégorie prend en vous des proportions à vous-même inconnues. Cette indistinction, on pourrait la justifier en alléguant que le haschich n'ouvre jamais autant à une unité symbolique du monde que dans le mouvement par lequel le particulier se révèle infiniment autre. Telle est bien l'esthétique célébrée dans le salon de 1859 d'une recherche de l'infini dans le fini qu'illustrerait dans l'ordre formel le choix du sonnet, comme si la fonction de l'imagination n'était jamais que d'ouvrir les limites du fini à un infini de diction et de signification. Cependant, de tout autre enjeu me semble attaché à l'allégorie en cette œuvre. N'y a-t-il pas en effet une reviviscence de l'allégorie sans équivalent chez le Vigny de Daphné, Hugo ou Flaubert, lesquels illustrent aussi chacun de façon singulière, le passage de l'allégorie comme simple ornement de l'élocutio à l'idée d'un mode de pensée à part entière, où les tropes, comme enfouis dans la profondeur subjective, deviendraient les acteurs de ce que Baudelaire appelle dans le quatrième projet de préface pour les fleurs du mal, la rhétorique profonde. Dans Baudelaire à l'apogée du capitalisme, Walter Benjamin a le premier souligné la présence de la mort et de son lieu, Paris, comme le signe de la rupture que l'histoire, en sa violence, aurait introduite dans la conscience de soi de la poésie au XIXe siècle, et d'avancer que l'allégorie devient, avec Baudelaire, l'armature de la modernité. Avant de mettre à l'épreuve la pertinence de cette intuition, une deuxième remarque préliminaire. Si l'allégorie se définit par une logique du double sens, si elle ouvre un hiatus entre le visible et le caché, entre l'image qu'elle donne à voir et le discours plus essentiel qu'elle donnerait à lire, la poésie de Baudelaire est de fait une sorte de théâtre où confluent, aux fins d'une véritable dramaturgie allégorique, des genres comme l'emblème, la fable ou l'énigme. Une scène où prennent relief tous les modes de la personnification, laquelle, fait capital, personne univocité, que les affects ou entités abstraites s'ennoblissent d'une majuscule, l'angoisse et l'espoir, la débauche et la mort, la destruction avec ses plaines et son appareil sanglant, ou ne soit, dans à une Madone, qu'une suite d'hyperboles transmuées en autant d'acteurs du drame passionnel, que le poème se construise au rythme d'identifications allégoriques absolues. Je suis un cimetière abhorré de la lune, je suis un vieux boudoir plein de roses fanées, ou postule à l'attaque des vers une nouvelle référence mythique, la haine et le tonneau, des pâles d'Anaïde, on a le sentiment que l'allégorie gagne de proche en proche la totalité du poème. Comme Flaubert, dans La Tentation de saint Antoine, Baudelaire réécrit et la Psychomaquie de Prudence et le bestiaire médiéval. Les abstraits convoqués en cette œuvre sont un peu, accomplissement du style élevé s'il en est, comme ces comédiens dont parle Mon cœur mis à nu, je cite, « monté sur des patins très hauts, portant des masques plus expressifs que leur visage humain et parlant à travers des porte-voix. » Que de fois le sujet lyrique s'arrache-t-il aux limites du moi personnel pour se faire autre, s'identifiant à tel vieux flacon désolé aux instruments de ce que Blin appelait une chirurgie du rachat. Je suis le soufflet et la joue, je suis les membres et la roue. Si grande est ici l'expansion du comparant que l'effusion lyrique, cet épanchement parfois rêvé comme une hémorragie gagnant la cité, donne chair et sang aux instances les moins concrètes, comme dans la prosopopée de Maintenant, aux vers 11 et 12 de l'horloge, ou celle du crâne, dont la cervelle est vaporisée dans le dernier poème de la section Fleurs du mal. Complémentairement, il faudrait évoquer ces poèmes ekphraseis qui, souvent en trois étapes, description, interprétation, interpellation, guident le lecteur vers une signification qui prend volontiers la forme d'une prosopopée pathétique. Songeons au masque où la statue aux grâces florentines se révèle une fois ôté le voile d'un décor suborneur, la face crispée d'une beauté vaincue, lucanienne, assujettie à la seule douleur d'être. À danse macabre qui culmine dans une prosopopée de la statue, laquelle clame en des accents pascaliens, tout vibrant d'un éréthisme nerveux, l'ironique empire de la mort. Autant d'allégories, elles-mêmes inspirées d'allégories plastiques, c'est bien connu, qui mettent en scène le déchiffrement dramatisé d'une dualité du réel, invitant le lecteur au parcours temporel d'une véritable pédagogie de la cruauté. D'autres poèmes relèvent enfin de la tradition de l'emblème, avec leur partage entre pictura et subscriptio, ainsi du squelette laboureur, ekphrasis d'une planche de Vésale, de l'amour et le crâne, impresa macabre, inspiré de Goltzius, ou ressortissent du genre de la fable. Pensons au hibou, allégorique d'une sédentarité contemplative et mélancolique. À un plaisant épure en prose de 1862, où la figure de l'âne asservi, loin d'être l'outragé sublime rêvé par Hugo, fait littéralement exploser, en cette veille festive du Nouvel An, non seulement l'autolâtrie du bourgeois satisfait et l'élitisme du témoin narrateur, mais le genre lui-même. Une fable, si l'on veut, mais où le jeu serait mis en demeure d'affronter, dans une rage impuissante, la précarité de son propre statut de sujet. Cette trop brève typologie, à laquelle l'on pourrait ajouter l'énigme que constitue laquelle est la vraie, ainsi que le dossier du frontispice des épaves, réouvert par Claire Chagnot, n'a de sens que de montrer combien l'allégorie, dans la diversité de ses modalités, devient un mode privilégié de l'écriture baudelairienne, à laquelle elle confère une théâtralité des plus saillantes, une potentialité critique, peut-être sans précédent. Cette virtualité critique, constatons d'abord, ce sera mon premier point, qu'elle est liée à une mélancolie dont l'inflexion humorale est inséparable d'une expérience historique. En témoigne le sonnet 75, d'abord paru, je le rappelle, au seuil des limbes, dans le Messager de l'Assemblée du 9 avril 1851, et dont les figures d'encadrement sont les allégories de Pluviose et d'un couple de cartes à jouer. Pluviose, irritée contre la ville entière, de son urne à grands flots verse un froid ténébreux aux pâles habitants du voisin cimetière et la mortalité sur les faubourgs brumeux. Mon chat, sur le carreau cherchant une litière, agite sans repos son corps maigre et galeux. L'âme d'un vieux poète erre dans la gouttière avec la triste voix d'un fantôme frileux. Le bourdon se lamente et la bûche en fumée accompagne en fossé la pendule enrhumée. Cependant qu'en un jeu plein de sale parfum, héritage fatal d'une vieille hydropique, le beau valet de cœur et la dame de pique causent sinistrement de leurs amours défunts. Ce sonnet illustre au plus juste, Victor Brambert en a parlé, la dialectique de mort et de vie inhérente à la pratique allégorisante. C'est en effet un mois du calendrier révolutionnaire, Pluviose, 20 janvier, 18 février, qui tient sous sa dépendance les victimes d'une climatologie physico-morale liée à l'énergie sinistre de la terreur, cet hiver de l'histoire dans lequel s'inscrit à la date des limbes la menace du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Les êtres nommés dans les quatrains, habitants, chats, poètes, sont aussitôt frappés de spectralité jusqu'à disparaître au vers 8, au bénéfice des seuls objets dotés dans l'éthercé d'une survie malheureuse. Le bourdon se lamente, la pendule enrhumée dissonne avec la bûche. Quant au couple de cartes, un jeune premier et sa dame à la pique, non seulement il remotive le topos de l'amour et de la guerre, mais le voici condamné au face-à-face létal d'une causerie dont le sujet n'est autre que le deuil de l'amour. Comme si la voie poétique se situait sur la ligne de crête, entre abstrait et concret, mort et vie, s'opère une permutation des défroques, puisqu'aux pâles habitants du voisin cimetière répondent les vivants en sursis des faubourgs, que chats et poètes ont échangé leurs lieux respectifs, gouttières et litières, et qu'au total ne vibre plus, au terme d'un mouvement qui, de la ville, mène au cœur du foyer, qu'un murmure de voix endeuillées. S'il est vrai, selon Benjamin, que l'allégorie reste les mains vides, ce sonnet en est l'illustration exemplaire, en ce que la seule unité dont puisse se prévaloir le jeu lyrique est celle d'une voix rassemblant dans l'espace savant du sonnet les figures de son propre effacement. S'impose ainsi un paradoxe fondamental. D'un côté, une réification progressive, le poète associant des éléments qu'en un même geste il dote d'un surcroît de présence et vide comme sous l'effet d'un mal historique allégorisé, cette terreur dont le Hugo de 93 fera le chiffre où se résume l'énigme de l'histoire. Ainsi, le poème dévide-t-il les images d'une fécondité tarie jusqu'à l'image finale de ces cartes, héritées d'une vieille hydropique, vieille dont Ripa faisait l'image même de l'avarice. De notre côté, plus le décor se réifie, plus grandit l'intensité musicale du sonnet, comme si la représentation du processus de mort à l'œuvre au cœur d'un sujet désormais incapable de penser l'histoire comme une force dynamique se retournait en une étrange musique et que le vide des choses, paradoxe moderne s'il en est, ouvrit sur une redéfinition du lyrisme. Que Pluviose s'impose avec l'autorité d'un dieu, d'autant plus incarné qu'il préside un processus de dépersonnalisation allégorique, je reprends le mot de Brombert, dépersonnalisation, donc un processus de dépersonnalisation allégorique d'un nouveau rapport à l'histoire, prouve bien qu'au rebours de la pensée goethéenne, réduisant l'allégorie à n'être que le voile d'une signification qui, à peine dégagée de son vêtement iconique, subsisterait seule, les allégories baudelairiennes se creusent d'un poids de signification exactement proportionnel à leur visibilité. À ce point, revenons à la question initiale, à savoir l'indétermination lexicale dont témoigne cette œuvre. Symbole, mythe, allégorie, est-ce vraiment tout un ? Comme semblent le confirmer les essais critiques du poète. Pour mieux répondre, je voudrais relire la deuxième section des Petites Vieilles. Poème, vous le savez, paru dans la Revue Contemporaine du 15 septembre 1859. De Frascati défunt, vestale enamouré, prêtresse de Thalie, hélas, dont le souffleur enterré, c'est le nom, célèbre évaporée que Tivoli jadis ombragea dans sa fleur, toute m'enivre. Mais parmi ces êtres frêles, il en est qui, faisant de la douleur un miel, on dit au dévouement qui leur prêtait ses ailes, hippogriffe puissant, mène-moi jusqu'au ciel. L'une, par sa patrie, au malheur exercé, l'autre, que son époux surchargea de douleur, l'autre, par son enfant, madone transpercée, toutes auraient pu faire un fleuve avec leurs pleurs. Ce catalogue des Petites Vieilles procède d'un geste allégorisant par lequel chacune de ces humiliées devient l'incarnation magnifiée de la douleur. Loin de vider les figures de présence, la ponctuation forte du type les leste d'un poids d'humanité aggravé, et cela au terme d'un mouvement contradictoire repérable dans la première partie. Le poème commence en effet par un portrait, une caricature, de ces silhouettes disloquées prélevée sur le tableau mouvant de la capitale et soumise presque aussitôt à l'hypothèse qu'elle ne serait que le symbole d'un goût bizarre et captivant, lit-on au vers 24, d'une coïncidence de la tombe et du berceau. Il me semble toujours que cet être fragile s'en va tout doucement vers un nouveau berceau, vers 27-28. Voilà donc un poète visiblement conquis par la promesse d'une palingénésie, d'une inscription de ces femmes dans un cycle rédempteur de mort et de vie. Pourtant, à peine l'hypothèse est-elle déclinée que le sujet la récuse. Je relis les vers 29 à 32 des Petites Vieilles. À moins que, méditant sur la géométrie, je ne cherche à l'aspect de ces membres discords combien de fois il faut que l'ouvrier varie la forme de la boîte où l'on met tous ses corps. Retournement spectaculaire. Puisqu'au lieu de devenir les symboles d'un mythe christique, les petites vieilles sont perçues comme les allégories d'une ruine, le mot apparaît au vers 81, ruine qui est aussi bien celle du sujet. Déchues de leur statut symbolique, elles ne sont plus que les chiffres allégoriques d'une perte, sans rédemption, inscrits dans la linéarité d'une histoire où prévaut la seule loi de la destruction. De là, l'élan passionné qui reconduit les petites vieilles dans la sphère du sujet, tout m'enivre, s'écrit-il, entre jouissance doloriste et un mouvement d'empathie qui sait les rejoindre dans les pleurs versées, grossis aux proportions d'un fleuve qui s'apparente bien sûr au magnifique fleuve du Masque ou au Simoïs monteur dont on nous dit dans le Cygne qu'il grandit de tous les pleurs d'Andromaque captive. Un tel flot revitalise l'allégorisme cruel du poète géomètre. Il l'humanise, voire l'hystéricise, en traçant comme la ligne de partage entre le symbole ou le mythe et l'allégorie. Toutefois, ce que je décris comme un partage, peut-être faut-il le penser avec John Jackson comme une tension, car aussi bien le grandissement allégorique des petites vieilles dans une litanie qui fait de chacune d'elles un échantillon exemplaire du dévouement, ne s'opère-t-il que moyennant la référence mythique. La vestale du vers 37 n'a pas seulement perdu sa virginité sur les bords de la Seine, mais encore la maison de jeu où elle officiait, copie triviale de la Frascati renaissante. La prêtresse de Thalie est d'un même geste ennoblie par la périphrase et dérisoirement rendue à la nullité de son destin de comédienne enterrée. Il n'est plus d'ombre, enfin, pour la célèbre évaporée de la folie Boutin, pâle réplique parisienne de l'antique Tivoli. D'un mot, les figures et les lieux du paganisme allégorisent une modernité placée sous le signe de l'usure et du manque, à ceci près qu'intégrée à la mélopée lyrique, Frascati et Tivoli, la Vestale et Thalie, la Madone et l'hippogriffe du Roland furieux deviennent les restes d'une épopée diminutive, les chiffres solidaires d'un héroïsme perdu. L'allégorie, on le voit, entre en tension avec le symbole. Dans le paradoxe qui les fait se succéder l'une puis l'autre dans la conscience du sujet, elles ne deviennent les allégories d'une humiliation que moyennant une historicisation qui découpe leur silhouette sur le fond de ce que Baudelaire nomme au vers 8 d'horreur sympathique le paradis latin, périphrase pour Rome, comprise comme le paradis d'une unité symbolique. Ce qu'Antoine Compagnon appelle le non sequitur de l'allégorie baudelairienne, cet art de détacher sous le regard mélancolique chaque élément dans son énigme, d'inscrire, je cite Baudelaire, dans une forme d'inspiration pour ainsi dire entrecoupée, les heures de l'âge moderne, ouvre sur une redéfinition du lyrisme dans un dépassement des limites assignées à la poésie, pour reprendre les mots de la lettre à Jean Morel de juin 1859. Cependant, la difficulté de cette œuvre est de se situer toujours dans une hésitation entre un recours au symbole et un recours à l'allégorie. D'un côté, une poétique des correspondances en vertu de laquelle le poète ressaisit les confuses paroles qui sourdent du texte naturel, passant à travers ces forêts de symboles dont parle le premier quatrain de correspondance, à charge pour lui de les retraduire en un ordre, une harmonie qui est l'autre nom du beau. Dans cette perspective, le poète n'est autre qu'un traducteur, lit-on dans la notice de 1861 sur Hugo. Appliqué au lent déchiffrement des rapports intimes entre des signes essaimés dans le dictionnaire des choses. Ce qui suppose une relation quasi transparente, me semble-t-il, entre la réalité sensible et le langage, et requiert de l'artiste, tel Gautier, l'infaillibilité dans le choix du mot propre, la précision lexicale garantissant la validité ontologique du verbe. En ce sens, l'imagination est bien la plus scientifique des facultés, selon l'étonnante formule de la lettre du 21 janvier 1856 à Toussenel. Cependant, à l'opposé, l'expérience du poète citadin de 1850 est celle d'un nouvel Ovide exilé sur les bords de la Seine, confronté au discord radical entre le signe et ce qu'il signifie. Tout pour moi devient allégorie. J'ai mis le sujet du signe, c'est le vers 31, bien connu, voué aux ruines du sens, comme à celle du vieux Paris. Il rassemble en sa parole les figures mythiques de l'exil. À l'Andromaque virgilienne et racinienne répond, on le sait, le signe moderne à parier dans un même destin dégradant, dans la même nostalgie d'une patrie perdue. Toutefois, dans les trois derniers quatrains, l'anaphore du « je pense » déborde le cercle mythique qui s'est ainsi constitué et ouvre à l'infini l'élan d'une sympathie qui s'adresse à la négresse amaigrie et phtisique, aux maigres orphelins, aux captifs, aux vaincus, à bien d'autres encore, aggravant ainsi, entre les figures nommées et l'exil sans fin qu'elles allégorisent, une béance, une blessure qu'aucun cautère symbolique ne saurait suturer. Dans l'allégorèse à laquelle est invité le lecteur, point d'évacuation de l'image au profit d'un sens. Bien plutôt, l'image se creuse-t-elle d'un sens indéterminé ? Les allégories induisant un cumul d'allégories, lesquelles appellent à leur tour un essai inabouti de traduction. Ne pourrait-on dire au total que la question fondamentale est de savoir vers quoi les choses font signe ? Si c'est vers un beau créé par la capacité de fusion de la métaphore, ainsi dans la chevelure ou le balcon, l'on reste à l'intérieur d'une pensée du symbole. Si prévalent le lait, la dysphorie, l'impossible unification de soi, l'on s'achemine vers une poétique de l'allégorie. La grandeur de Baudelaire est peut-être de ne rien sacrifier d'une telle tension. Je voudrais conclure sur une dimension dont je n'ai rien dit, à savoir la tendance de l'allégorie à se déployer en un texte narratif, ce qui suppose la temporalité d'un parcours interprétatif. Un bon exemple en serait les allégories du pendu, qui nous mèneraient d'un voyage à Cythère au poème en prose intitulé « La corde », en passant par le poignant hommage à Nerval, un an, jour pour jour, après son suicide, dans Edgar Poe, sa vie et ses œuvres. Du poème en vers primitivement dédié à Nerval, je ne retiendrai que l'hésitation entre allégorie au vers 56 et symbolique au vers 58. L'acmé de ce voyage allégorique vers soi est assurément l'apostrophe du vers 45. Ridicule pendu, tes douleurs sont les miennes, laquelle est une déclaration d'identité qui fait du pendu la figure mémorielle des douleurs anciennes du sujet lyrique. L'interpellation se mue alors en une appropriation réflexive et intime du tableau. Et j'avais, comme en un suaire épais, le cœur enseveli dans cette allégorie, vers 55 et suivant. Parler du suaire de l'allégorie, n'est-ce pas proposer en une remotivation du tégoumène de la tradition patristique, une sorte d'allégorie de l'allégorie? Or, l'image se prolonge dans la double invocation finale que voici. D'Antonie, ô Vénus, je n'ai trouvé debout qu'un gibet symbolique où pendait mon image. Ah, Seigneur, Donnez-moi la force et le courage de contempler mon cœur et mon corps sans dégoût. Cette double apostrophe s'adresse successivement à Vénus et au Seigneur. Entre eux, la béance historique que soulignent les points de suspension du vers 58, le pendu de Cythère et le double cadavérique d'un sujet en deuil de la déesse païenne. Et là, je ne peux que renvoyer à la belle analyse de Jean Starowinski, Cadavres interpellés. Il en atteste la caducité sous le coup d'une loi de l'histoire qui fait du dieu chrétien l'artisan d'une culpabilité corrompant les sources d'un héros heureux. Est-ce à dire encore une fois que le modèle antique soit congédié ? Il n'en est rien, puisque c'est par le relais de ce fond mythique que s'est accompli un voyage vers soi qui à la fois ruine ce modèle et en fait le chiffre allégorique d'un portrait de soi en Narcisse malheureux. Je reprends l'expression de Starobinsky, Narcisse malheureux. Dans la mesure où ce gibet ouvre un hiatus, instaure une distance dans laquelle s'abîme le sujet interprète, faut-il parler d'un gibet symbolique, c'est le mot de Baudelaire, ou d'un gibet allégorique. Telle est la porie. Mais ce voyage allégorique vers soi entraîne le lecteur bien au-delà du pendu de Cythère. Car il est un autre pendu dont l'évocation permet de saisir comment le poème en prose baudelairien peut se construire comme une allégorèse fondée sur l'uponoïa, la conjecture, le soupçon. La corde est le récit étrangement dédié au peintre ami de la pendaison du petit Alexandre, modèle de Manet pour le gamin aux cerises. Récit indélicat s'il en est, le pendu devenant, en cette sorte de parabole allégorique sur l'art, l'icône d'un véritable homicide esthétique. Dans ce que Blin appelait une histoire extraordinaire, l'énigme du suicide de l'enfant se trouve renforcée dans le travail d'interprétation auquel se livrent narrateurs et lecteurs par une foule d'énigmes latérales analysées par Steve Murphy, de répétitions suspectes, de modalisations propres à brouiller l'exégèse. Ainsi est-on amené non seulement à soupçonner de cessité le didactisme d'un narrateur qui se réfugie trop volontiers dans ses sentences, mais à lier dialectiquement l'instrumentalisation du petit modèle et ses crises singulières de tristesse. Il a posé plus d'une fois pour moi, et je l'ai transformé tantôt en petit bohémien, tantôt en ange, tantôt en amour mythologique. Je lui ai fait porter le violon du vagabond, la couronne d'épines et les clous de la passion et la torche d'Eros. Je pris enfin à toute la drôlerie de ce gamin un plaisir si vif que je priai un jour ses parents, de pauvres gens, de vouloir bien me le céder, promettant de bien l'habiller, de lui donner quelque argent et de ne pas lui imposer d'autre peine que de nettoyer mes pinceaux et de faire mes commissions. Cet enfant, débarbouillé, devint charmant et la vie qu'il menait chez moi lui semblait un paradis comparativement à celle qu'il aurait subie dans le taudis paternel. Seulement, je dois dire que ce petit bonhomme m'étonna quelquefois par des crises singulières de tristesse précoce et qu'il manifesta bientôt un goût immodéré pour le sucre et les liqueurs. Si bien qu'un jour, où je constatais que, malgré mes nombreux avertissements, il avait encore commis un nouveau larcin de ce genre, je le menaçai de le renvoyer à ses parents. Puis, je sortis, et mes affaires me retinrent assez longtemps hors de chez moi. Tour à tour, bohémien ou ange, grimé en vagabond, en Christ aux outrages ou en Cupidon, le gamin n'est plus qu'un figurant sur le théâtre du moi esthétique, un moi aveugle au déni d'amour dont souffre le petit modèle. Que de symptômes d'égocentrisme dont la jouissance de l'artiste a rançonné la drôlerie du petit miséreux, à le débarbouiller de la répugnante patine de la misère, à le sermonner pour le vol de sucreries compensatrices, le faire poser avec la couronne d'épines et les clous de la passion, n'est-ce pas occulter la possible remontée du sens figuré de la représentation au sens littéral de la tragédie personnelle ? Ce que le petit cadavre renvoie au peintre de ses grands yeux fixes et obsédants, c'est l'image d'un meurtre aussi involontaire qu'effectif, d'un homicide dont il est la tragique effigie. L'œuvre de beauté se trouve ainsi ironisée, mise à la question dans son pouvoir de refoulement, comme l'atteste le réflexe du peintre de lancer clous et cordes par la fenêtre pour mieux se remettre au travail. Capitale est donc la double perspective. Le récit du peintre étant le fait d'un narrateur certes aimanté par le besoin herméneutique, mais doublé par un lecteur auquel est dévolu le soin de déchiffrer les trois moments de ce calvaire anonyme, une descente de croix. Il fallait le soutenir tout entier avec un bras et avec la main de l'autre bras couper la corde. Un partage des vêtements. La rigidité cadavérique était telle que, désespérant de fléchir les membres, nous dûmes lacérer et couper les vêtements pour les lui enlever. Un consummatum est bien trivial. Enfin, tout était accompli. Il ne me restait plus qu'à me remettre au travail. La corde est ainsi un don provocant fait à Manet. En réponse au paradis prétendument offert aux gamins, l'image non d'un foyer, mais d'un atelier, où ce que Proust appelle la magie illusoire de l'art dérobe aux yeux de l'artiste l'expérience des souffrances vraies. Tel est l'un des parcours auxquels invitent les allégoraises du spleen de Paris. Sans que jamais le récit, en cela moderne, se résorbe en une explication univoque ou stable. Aucune clarification en ces proses tissées de soupçons qui, bien au contraire, laissent le regard embrumé comme celui du narrateur du gâteau, comme si le travail du lecteur-interprète ne pouvait déboucher que sur un suspens infini de la signification. L'ironie de ce que Baudelaire appelle dans les lettres à Sainte-Beuve du 15 janvier 1866 une morale désagréable. D'une certaine façon, Baudelaire porte ici le récit allégorique à la fois vers sa faillite et vers son accomplissement paradoxal, s'il est vrai que le sens reste à jamais différé. Je vous remercie.